I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je pense qu'être un homme, c'est assumer tes traumatismes et assumer tes blessures et assumer ta sensibilité, justement. Assumer tes douleurs. Quand, à partir du moment où t'es assez fort pour afficher tes faiblesses, c'est là que t'es un homme. C'est le contraire de ce qu'on a cru au départ. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, je peux pas faire ça. Justement, j'aurais pas les épaules pour faire ça. Je veux pas devenir un poster boy du handicap ou porteur d'une cause. Enfin, moi, la seule cause dont je peux parler, c'est la mienne. Mais je suis pas un exemplaire. Je parle pas au nom de tous les handicapés. C'est ça qui me faisait peur aussi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je m'en fous.
Exécuté par qui ?
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussion et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot.
Est-ce que t'es à l'aise ?
Ouais, c'est pour ça que je me positionnais pour être bien.
Mets-toi bien comme tu veux.
Ouais, parce que j'ai un fauteuil qui fait chaise longue en même temps, donc
c'est trop bien.
Je serais content de pas en profiter. Voilà.
Bon, écoute, moi, c'est OK pour moi. Est-ce que tu as des questions ?
Non, on commence quand tu veux.
On commence quand je veux ?
Ouais.
Bon, bah, let's go alors. On est avec Nico, donc salut Nico.
Salut Flo.
C'est Fab. Mais c'est
Fab.
Pas grave.
C'est pas grave. On va t'appeler Gérard.
Appelez-moi Gérard. Tu peux m'appeler Gérard, c'est pas sûr que je réponde, mais en tout cas, c'est un problème.
D'accord.
Merci Nico de venir parler de masculinité. Tu m'as dit que c'était la première fois que tu venais parler de masculinité.
Ben oui, enfin.
Voire même que tu parles de masculinité.
Oui, c'est pas un sujet. Qui m'est habituel. Enfin, moi, je parle souvent de littérature ou d'art ou de ciné ou de choses comme ça. Mais de masculinité, je suppose que c'est pas ce qu'on projette en premier sur moi. Enfin, quand t'es en fauteuil, ce qu'on projette en premier, c'est le fauteuil. Et donc c'était intéressant pour moi d'explorer ça, tu vois, d'explorer ça avec toi parce que j'y ai jamais pensé d'une manière directe, en fait. Donc
jamais.
Non. Et du coup, ça m'a interrogé sur là-dessus justement sur comment je vois la masculinité. Et c'était intéressant de se poser la question. Enfin, surtout à notre époque où vraiment les genres, les codes des genres deviennent complètement explosés. Quoi.
Ouais.
Enfin, on n'est plus dans les années 50, encore heureux.
Ouais.
Mais on est vraiment dans une période où tout ça change. Quoi. Donc, même nos références à nous, moi j'ai 43 ans, et tu t'aperçois que tes références de maintenant ne sont plus les références que tu avais quand tu étais gamin. Quoi.
Exactement.
Donc ça, c'est intéressant.
Écoute, j'ai 44, donc tu vois...
Mais on est jumeaux en plus.
On se parle,
ouais.
Ça va nous parler.
Ouais.
Donc tu le disais, les gens ne te voient pas, mais tu le disais, t'es en fauteuil en fait.
Mm.
Jenna, c'est Jenna en fait qui nous a mis en contact, ouais. Jenna qui travaille avec moi et qui m'a dit, tu vas voir, Nico, ça va être un super... Super invité pour toi.
Elle a menti.
La première question que je pose à tous mes invités, moi, dans l'histoire de mec, c'est quoi pour toi être un homme ?
Ah, c'est quoi pour moi être un homme ?
La première question, déjà, elle est chaude. Hein.
Ouais. Ça fait sujet de philo, vous avez 4 heures. Non, je suppose que pour moi, la première image que j'ai d'un homme, c'est l'image d'un père. En fait, c'est être un père.
Ok.
C'est pas vraiment. Je pourrais te répondre que ça serait une image de force, que ça serait une image, mais c'est pas tout à fait ça pour moi. C'est vraiment une image de responsabilité. C'est-à-dire que tu vas te Enfin, c'est très étrange, mais c'est prendre les problèmes en face.
Okay.
C'est regarder la réalité en face et pas biaiser, pas fuir quand il y a un problème, régler la question. D'une certaine manière, pour moi, être un homme, c'est sortir de l'enfance, quoi. C'est okay. sortir de l'irresponsabilité, en fait. Donc c'est presque être un homme, mais d'une manière un peu générique, tu vois. C'est pas être un homme, avoir une bite, tu vois. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment avoir des épaules, quoi.
Avoir des épaules.
Ouais.
Je crois que t'es le premier mec en plus de 100 interviews à me dire ça.
Sérieux ?
Avoir des épaules. Non, c'est intéressant.
Ouais.
Pourquoi tu projettes ça, tu crois ?
Parce que je crois que, enfin, quand on a atteint l'âge d'homme, on s'aperçoit qu'on est seul. Et on s'aperçoit qu'on est seul à supporter le poids du monde. Et à supporter toutes les emmerdes.
Alors
que
quand
ça...
Tu dis on s'aperçoit, tu parles de toi.
Oui, oui, okay, oui. Je me suis aperçu que j'étais seul et je me suis aperçu que c'était à moi d'affronter le monde, en fait. Et alors que quand on est enfant, on est préservé de tout ça. C'est les autres qui se prennent le monde dans la gueule, c'est
donc
pas
quand
toi.
T'étais enfant.
Oui.
Non mais tu sais pourquoi j'insiste
oui,
là-dessus,
oui, oui.
C'est que généralement, la plupart des mecs qui viennent à ce micro, c'est souvent un truc qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils parlent pas d'eux, et en fait ils utilisent des on ou des
pour s'abstraire du truc.
Exactement.
Ouais,
en fait, j'aimerais
vois.
Bien qu'on parle de toi.
C'est violent, putain.
Pardon.
Et c'est toi qui es sur le canapé en plus. Je peux pas m'allonger sur le divan. Mais je comprends. Ben oui, enfin, moi j'ai été préservé de beaucoup de choses dans mon enfance. Enfin. C'était mes parents qui affrontaient les problèmes, c'était mes parents qui affrontaient le handicap, c'était mes parents qui s'occupaient de savoir comment j'allais être inscrit à l'école classique et tout. Ce qui fait que moi, j'ai vécu une enfance d'une certaine manière assez idyllique et assez inconsciente des problèmes que ma condition d'handicapé posait, tu vois.
T'es en fauteuil depuis ta naissance ?
Je suis en fauteuil depuis ma naissance, ouais. Je suis atteint d'un handicap qui s'appelle la paralysie cérébrale, donc ça touche les fonctions motrices du cerveau, etc. Donc il y avait une vraie dichotomie entre le corps que j'avais du mal à contrôler et l'intellect qui était intact, quoi. Donc c'était, mais j'ai pas vécu ça comme une exclusion parce que mes parents m'en préservaient.
Même à l'école et tout.
Même à l'école, même tout ça, j'étais vraiment dans un milieu intégré, tu vois.
Okay.
Et ce qui fait que j'ai pris conscience plus tard que j'étais pas tout à fait un homme comme les autres ou un garçon comme les autres. Donc c'est quelque chose qui te saisit à l'adolescence, tu vois.
C'est ça, à peu près à l'adolescence, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Quand tu vois que t'es pas invité au boom, que tu plais pas aux filles, enfin ou que c'est beaucoup de boulot. Et je me suis aperçu que j'étais vraiment un cas à part, mais quand j'avais je sais pas, 14-15 ans, quoi. Avant, j'étais vraiment un gamin comme un autre. Donc le choc est venu beaucoup plus tard. Et quelque part, c'est ce qui m'a préservé de me voir en tant que uniquement handicapé et pas en tant que garçon lambda. Donc moi, pendant longtemps, j'ai été préservé de tout ça, quoi. Et d'une certaine manière, ma mission d'homme qui est assez particulière... C'est le fait d'intégrer le handicap à l'image que j'ai de moi. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est prendre la responsabilité de ce que t'es. Prendre la responsabilité de... Parce que moi, la plupart des gens, ils me disent, quand on te voit, on voit pas le fauteuil. Et je lui dis, vous êtes bien gentil, mais c'est la première chose qu'on voit. Donc c'est...
Pourquoi tu crois qu'ils disent ça ?
Oh, pour me rassurer, et puis parce qu'ils le pensent vraiment, je crois. C'est une forme de déni. Et c'est presque une forme de négation inconsciente aussi, c'est qu'on veut pas le voir, c'est que tu n'es pas ça, c'est pas possible que tu sois ça. Et quelque part, ben au bout d'un moment, tu t'aperçois que ta responsabilité, c'est à toi, c'est de dire ben, si je suis ça,
c'est de l'accepter, c'est voire même de l'embrasser, c'est ça,
presque de le revendiquer, je dirais presque. C'est comme n'importe quel différence, enfin j'aime pas trop ce mot, n'importe quelle minorité, voilà. Quand t'es gay, il faut dire que t'es gay. Quand t'es
Il faut pas, mais
ouais, enfin il faut l'assumer, tu vois.
Tu peux vouloir l'assumer, quoi.
Il faut l'intégrer à ton identité, en tout cas. Faut pas l'abstraire de ce que, faut pas dire c'est autre chose, c'est pas moi.
Donc ça veut dire que pour toi, un homme gay qui le revendiquerait pas, tu vois, qui juste le vivrait
Ah non, moi chacun fait comme il
non,
veut.
Je sais. Ouais.
C'est
Non mais parce que tu vois comme tu dis il faut, tu vois, je me disais est-ce que c'est vraiment un truc.
Non non, c'est pas quelque chose de général. Moi je sais que je me sens beaucoup mieux depuis que je me suis dit tu es handicapé, tu es en fauteuil et c'est une donnée qui bougera pas. Tu vas pas guérir, tu vas pas changer, ça fait partie de toi.
C'est arrivé à quel âge ça ?
Ah, c'est arrivé très tard en fait, c'est une trentaine d'années.
OK.
C'est-à-dire bah ma première relation avec une femme sérieuse ou je dis pas que je sortais avec des femmes rigolotes avant hein.
La première relation sérieuse.
Oui, la première relation sérieuse. Et là, je me suis dit, bah, je peux plus éviter le mur, quoi. Donc, il a fallu que j'assume ce corps et que j'assume les possibilités qu'il avait et d'une manière très, très lucide et très frontale. Sauf que moi, j'avais vécu dans les livres, j'avais vécu dans la musique, j'avais vécu dans les films.
Les gens le voient pas, mais t'as plein de livres partout, chez toi, dans ton appart, des livres, des DVD, etc., etc.
Des guitares.
Des guitares, effectivement, une guitare à côté de moi.
Ouais. Et parce que c'était mes refuges. Enfin, c'est toujours mes refuges. Je suis pas mort encore. Mais
ça pourrait ne plus être tes refuges.
Non, ça le reste vraiment. C'est comme des cabanes d'enfants ou des zones de confort où tu te sens bien. Et moi, particulièrement la musique, les livres, les films, c'était mon identité. Et quelque part, enfin, quand tu m'as demandé ce que c'était que la masculinité pour moi. Mon premier rapport à la masculinité, très ennuyeux et très classique, c'était Bruce Lee, Bruce Willis, Stallone, Schwarzenegger. C'était vraiment des êtres qui étaient des corps qui étaient très loin de moi. C'était des muscles, c'était de la force, c'était de la.
Tu vois, t'avais le DVD de Rocky là, dans,
ben
ta,
voilà.
dans ta bibliothèque.
Mais Rocky, avec le temps, ce qui me touche, c'est pas la force, c'est la vulnérabilité. C'est vraiment la faiblesse du mec qui dans l'un des films, il dit l'important c'est pas de voir à quel point tu vas te relever, c'est de voir à quel point la vie va te rouer de coups et comment tu vas te relever. Et c'est ça Rocky, c'est quelqu'un qui se relève tout le temps, même s'il t'a bassé tout le temps.
Et ça, c'était des films que tu regardais quand t'étais déjà ado, c'est ça ?
Ah mais quand j'étais gamin, je les regardais en boucle parce que j'avais, je pense que si on avait une explication psychanalytique, j'essayais d'avoir des références de corps. Et de corps idéal. Donc moi, je me souviens, j'étais torse nu comme Bruce Lee, je m'étais fabriqué une espèce d'arme comme lui, un nunchaku comme lui, enfin, j'avais des gants de boxe comme Rocky, enfin, c'était vraiment quelque chose qui... Je voulais épouser l'archétype, tu vois, je voulais me... Et je pense que là, pour le coup, je suis pas très original, hein. Tous les garçons font ça.
Ouais.
Essayent de se mesurer à, de ressembler à leur héros, ça peut être un footballeur, ça peut être un acteur, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est toujours des corps, c'est toujours des performances, en fait. Et je pense que les hommes, c'est ça qui les empoisonne quelque part, c'est le culte de la performance. Il faut toujours être le plus fort, il faut toujours être le meilleur. Et toi, quand t'es un petit gars, tout frêle, tout fragile et tout vulnérable, en fait, bah, où est ta place? Comment tu te construis à la lumière de ça? Enfin, c'est compliqué.
Alors, comment ça s'est passé pour toi?
Moi, c'est vraiment quand j'ai découvert les livres, en fait. Parce que c'était, justement, c'est quelque chose qui te sort du corps, qui te sort de la performance et tu t'aperçois que de tout ce que tu peux ressentir, tout ce que j'ai pu ressentir en lisant des romans, en lisant des poèmes, en écoutant des chansons. Enfin, je me souviens la première fois que j'ai eu vraiment un choc, c'était en écoutant Jacques Brel quand j'étais petit. Et un rush d'émotions. Je savais pas que c'était possible de ressentir tout ça. Je savais pas que c'était, qu'on pouvait pleurer en écoutant de la musique, qu'on pouvait pleurer en regardant un film, enfin tu vois, c'était toute une dimension qui pour moi a été un choc mais énorme.
Et tu t'autorisais en tant que petit garçon et tes parents t'autorisaient aussi quelque part en termes d'éducation à pleurer?
Oui, ça a jamais été un problème parce que bah, j'ai compris très vite que je ressentais les choses très très fort. Et je pleure assez peu finalement devant les musiques ou devant les films ou devant les choses, mais quand ça me prend, ça me prend.
Et tu t'en empêches pas en tout cas.
Il y a pas de refoulement, tu vois. Il y a pas de. C'était pas une preuve de vulnérabilité ou de faiblesse ou quoi. C'était comme ça. J'étais comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ouais.
Mais on a le même âge, toi et moi. Et moi, je sais que quand j'étais gamin, c'était vachement dur de pleurer parce que c'était dur d'avoir accès à ses émotions en tant que garçon parce que un garçon, ça pleure pas.
Et on t'en empêchait, toi, autour de toi.
Bah, c'est pas comme on empêchait.
C'était tacite.
Ouais, c'est ça. Il y a un peu ce truc de pleure pas et sois fort et machin. Enfin, tu vois, c'était un peu ce truc-là, quoi.
Mais tu vois, ça, c'est peut-être la chance, si je puis dire, d'être en fauteuil. C'est-à-dire que comme tu n'es pas avec les autres, tu ne ressembles pas aux autres, tu partages pas leur jeu, j'étais assez observateur, moi. J'étais assez sur le côté, j'étais assez... quand on m'acceptait dans les jeux, c'était un effort pour les autres. Donc forcément, je sentais qu'il y avait une différence. Ouais. Et je te parle de la très petite enfance, hein. J'avais 5 ans. Mais donc du coup, moi, mes réactions, mes références à moi... Elle n'appartenait qu'à moi, tu vois. Elle pouvait pas se comparer aux autres. Et quelque part, c'est peut-être, c'est énorme de dire ça, mais c'est peut-être le gros avantage d'être handicapé. C'est-à-dire que tu ne peux pas te comparer. Ou quand tu te compares, ça fait trop mal ou c'est absurde. Enfin, t'as pas les mêmes moyens. Donc ça, c'est intéressant parce que ça te forme à une sensibilité propre et à assumer cette sensibilité beaucoup plus tôt. Je pense que le problème de la masculinité, c'est vraiment un problème de sensibilité. C'est vraiment parce que on te dit quand j'étais gamin, les modèles masculins, c'était encore je sais pas moi, Lino Ventura et Jean Gabin.
Ouais.
C'était nos grands-parents, quoi. Et tu te dis, mais comment tu te places dans cette tradition-là quand toi, en gros, t'es Woody Allen. Et t'es un petit mec, et tu te dis, mais je corresponds pas à ces canons-là, à ces mecs-là et tout, mais comment tu te construis? Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment les mots, quoi, c'est les livres. Tu pouvais exister autrement. Tu pouvais exister autrement qu'en étant un bonhomme, tu vois, qu'en étant un daron. Et qu'en étant un espèce de dur, un peu à la Alain Delon, un peu froid, enfin, tu vois, ce culte du mal dans lequel on a été élevé, vraiment. C'était, moi, quand j'étais môme, on avait encore, le samouraï de Melville ou des trucs comme ça, tu vois, c'était des hommes très durs et très monolithiques. En plus, ça bougeait pas.
Oui. Très peu d'émotions.
Non, il y en avait pas. Ça passait pas. Et je, c'est intéressant d'ailleurs, je sais pas trop quand est-ce que ça a changé.
Ah. C'est marrant, je crois vraiment ces 20 dernières années, quoi. On a commencé à avoir des mecs de plus en plus à être capables de pleurer, mais dans la pop culture, tu vois, de plus en plus. Et je dirais vraiment ces 10 dernières années, ça a été encore plus fort, quoi. Et encore plus ces 5 dernières années, je crois. Ça va crescendo un peu.
Peut-être, moi je pense à un moment, c'est Kurt Cobain.
Ah, pas bête.
C'est au milieu des années 90. Et là, t'as un mec qui assume ses douleurs, qui assume ses souffrances, qui en meurt.
Qui finit par
se suicide de ça, quoi. Enfin, c'est la vie était insoutenable pour ce mec-là. Et c'était impensable. Enfin, je me souviens du choc, c'était quelque chose comme en 94, tu vois.
Ouais.
Et tu sais, avant, les mecs mouraient d'overdose. Enfin, c'était Jim Morrison. Mais c'était des bonhommes, quoi, tu vois. C'était quand même des arbres qui tombent, tu vois.
Ouais.
Et là, tu vois un mec un peu fragile, un peu ado, et puis écorché vif, quoi. Et moi, c'est à partir de ce mec-là où je me suis dit, 94, je devais avoir 15 ans. Et je me suis dit, c'est bon, tu peux être comme ça. Tu peux être écorché vif, tu peux être romantique, tu peux être, tu peux souffrir, ne pas avoir honte de ta souffrance, voilà, ne pas compenser. Ouais. Et je pense que les enfants des années 80 comme nous, on a passé notre enfance à essayer d'être autre chose, à essayer de compenser. Et moi, d'un seul coup, ça a été une vraie libération de découvrir que avant Kurt Cobain, avant Jim Morrison, il y avait eu Rimbaud. Il y avait eu Baudelaire, il y avait eu toutes ces il y avait eu Van Gogh, il y avait eu toute cette tradition d'artistes qui ont fait de leur souffrance un art, tu vois, qui ont transcendé ça dans leur art, dans leur création, et ça m'a fasciné. Et ça a décidé de ma vie. Enfin, je me souviens, la première fois que j'ai lu un poème, ça devait être un poème de Morrison. Et je me suis dit, je vais faire ça. C'était instantané. Je savais à peine ce que c'était qu'un poème.
Avec
je savais. J'avais, je sais pas, 12 ans. Et j'ai de la chance, j'ai eu des parents qui m'ont pas préservé de tout ça.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Parce que il y a pas mal de parents qui vont me dire il est trop jeune pour voir ça, il est trop jeune pour lire tel livre ou pour regarder tel film. Moi, j'ai tout vu trop jeune.
Trop jeune.
Moi, je me souviens, les gamins autour de moi, ils en étaient encore aux princesses Disney, tu vois. Mmh. Et moi, je regardais Scarface. Et où je regardais des films d'horreur ou des trucs comme ça. Et à une époque de ma vie, j'ai été chroniqueur cinéma. Et dans toute la rédaction, on avait fait un espèce de petit sondage. Et on avait tous comme point commun d'avoir vu des films qui n'étaient pas de notre âge.
Ouais.
Et ça a décidé de notre trajectoire, en fait. Parce que je suppose que c'est comme des beaux chocs ou des traumatismes ou quoi, qui te marquent au fer rouge et qui décident de la suite, quoi. Et je pense pas qu'il faut préserver les enfants, en fait.
Faut laisser les enfants aller
faut laisser les enfants aller vers ce qu'ils veulent.
Oui, après, t'es pas obligé de leur foutre des films porno devant...
Oui, voilà, tu vas pas leur foutre Massacre à la tronçonneuse à 2 ans et tu te démerdes.
Voilà.
Mais s'ils tombent dessus...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu veux que ça lui plaît? Ben ouais. Mmh.
C'est intéressant. et tu dis, ouais, tes parents t'ont laissé faire ou...
Toujours.
Est-ce que tu crois qu'il y avait un côté un peu... Ils s'y intéressaient pas ou alors il y avait vraiment ce truc de...
Non.
C'est son truc et en fait on va le laisser aller explorer.
C'est
quoi.
Beaucoup plus ça. C'est-à-dire que c'était... moi je me souviens quand j'étais môme, il y avait Dorothée qui avait parlé d'un bouquin à la télé.
Dorothée, donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, un petit peu l'immense figure de la télé jeunesse pour chez ATF1. Quoi,
quand on était môme, ouais. Et donc elle parle d'un bouquin qui fait pleurer qui s'appelle Cro-Blanc de Jack London. Et je me dis, j'avais, je sais pas, 6 ans. Et je dis à mon père, mais c'est bizarre, un bouquin qui fait pleurer. Enfin, il a vu que j'étais vraiment intrigué. Puis mon père, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois. Mmh. C'est quelqu'un qui fait. Et lui,
c'est un daron à l'ancienne, un peu.
Exactement. Okay. Mais un daron très gentil à l'ancienne, oui. Et très attentionné, et très à l'écoute. Donc c'est un mélange, tu vois, entre Gabin et Françoise Dolto.
Okay. Pas mal.
Mais donc
assez peu expansif.
Très peu expansif. Okay. Et sauf que le soir de ce jour-là, il rentre et puis il me tend un livre et c'était Cro-Blanc. Un vieux livre de pop. Enfin, maintenant, il est vieux.
Tu l'as toujours, là?
Je l'ai toujours, ouais. Et j'ai mis, je crois, 6 mois à le lire ou un truc comme ça. Mais je me le suis pris dans la gueule, mais d'une force. Et mes parents, c'est ça, tu vois. Ils voient ce qui... Ma mère, avec les films, elle a fait pareil, tu vois, me raconter des films. Puis elle voyait si je m'intéressais ou pas, et puis elle fouillait, elle allait plus loin. Mais ma mère est beaucoup plus bavarde. Donc, c'était... Et moi, en fait, j'ai pas été tellement formé par des professeurs et tout, j'ai été formé par la bienveillance de mes parents. C'est-à-dire par ces encouragements-là. Moi, j'ai pas eu une enfance d'empêchement. Ce qui fait que je suis pas quelqu'un de très complexé, tu vois, je pourrais être complètement prostré sur mon fauteuil à me dire putain, je suffis pas, j'y arriverai jamais ou quoi. Moi, j'ai toujours été plus ou moins mis en valeur, je suis vraiment un enfoiré quoi.
Comment ça?
Parce que la plupart des gens, ils sont humiliés par leurs parents et puis moi j'arrive et j'ai confiance.
Et en ça, tu te définis comme un enfoiré.
J'ai de la chance, de la chance par rapport à beaucoup de gens qui ont été bien abîmés par leur éducation, quand même bien empêchés. Moi, j'ai pas été empêché de beaucoup de choses. Parce que j'étais empêché déjà au départ, peut-être.
Oui, j'allais te dire, est-ce qu'ils n'étaient pas aussi en train de compenser quelque chose qui
Je crois.
Que, tu vois. Mais t'en as déjà parlé avec eux, à l'âge adulte?
Oui, oui, on en a. Mais pas comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est d'une... Ils ont eu une manière de réagir qui était instinctive et qui était excellente. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais suivi vraiment les conseils des médecins qui, en gros, à cette époque-là, ils disaient « on va le foutre en centre et puis il va se tenir tranquille, quoi. Vous allez être tranquille, c'est trop lourd pour... » Mes parents, ils n'ont jamais fait ça. Donc, du coup, je me suis développé comme un gamin normal, quoi. Et je pense que c'était leur manière de rétablir l'équilibre. C'est-à-dire, j'allais être empêché de plein de choses, j'allais pas être empêché de faire ce que je veux, quoi. Et ça change tout parce que ça, jusqu'à maintenant, tu vois, je suis écrivain, j'écris des livres.
On va en parler.
C'est le truc où tes parents te disent non mais c'est pas un vrai métier quoi, fais autre chose, fais un truc qui va te rapporter un salaire régulier, enfin quand même fais quelque chose quoi. Mes parents, mais jamais, j'ai toujours suivi les pires voies de garage, tu vois, enfin déjà tu fais littéraire, tu dis celui-là il arrivera à rien quoi. et donc, mais c'était tellement ancré depuis longtemps, c'était pas tu sais, t'as des mômes, j'en ai croisé qui un matin, ils font ciné, l'autre matin, ils deviennent journalistes, l'autre matin, ils deviennent créateurs de costumes. Enfin, tu vois, ça dans tous les sens. Moi, c'était vraiment décidé, c'était presque prédestiné, tu vois. J'étais imperturbable là-dessus, il fallait que j'écrive. Avant même que j'écrive, il fallait que j'écrive, quoi. Et donc, c'était quelque chose qui était... Je me souviens, quand j'étais petit, je faisais des dessins. J'ai fait des dessins pendant longtemps avec des grands récits qui accompagnaient mes dessins, que je disais à l'oral. Puis ma mère a passé derrière et a se tapé des bribes de l'Odyssée ou de l'Iliade ou quoi, parce que je le dessinais. Et je parlais tout haut et elle devait se dire « Mais d'où il sort celui-là ?» Enfin, c'était pas du tout mon milieu, c'était pas du tout mon... Mais tu vois, il y a eu une espèce d'intelligence du cœur à laisser fleurir un artiste, quoi. Et ça, c'est pas souvent. On l'entend pas souvent dire, quoi. Parce que les gens, ils disent, fais médecine et puis après, on verra, quoi. Ou fais du droit. Enfin, pas ça.
Ouais.
Et si tu veux, c'est... Ça équilibre beaucoup de pas avoir eu de frustration, en fait. De pas être construit sur des frustrations. Au fond, je te parlais du fauteuil au début, c'est des frustrations qui sont très pratiques et très concrètes. C'est genre, tu vas pas pouvoir monter un escalier ou monter un trottoir ou aller quelque part, enfin je sais pas. Mais c'est pas des frustrations existentielles.
C'est un peu en ça que je crois que je comprends tes amis, tu vois, qui disent on voit autre chose que le fauteuil. C'est qu'en fait, on est en train de parler depuis, tu vois, une demi-heure là.
Mmh.
Et en fait, je sens que tu renvoies tellement de confiance, si tu veux, que c'est sûr que je peux comprendre tes amis, tu vois, qui se disent non, mais en fait, on voit avant tout Nico avant de voir le fauteuil, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, je comprends, ouais. Mais c'est pour ça que mes amis me supportent aussi. T'imagines un mec qui pleurnicherait tout le temps. Ah, je peux pas marcher, putain. Enfin, il serait tout seul, quoi. Non, mais moi, je me suis aperçu que par politesse, j'effaçais le fauteuil.
Ah, ok.
Pour être accepté, pour être aimé, pour être tout ça, tu vois. Et c'était une erreur parce que finalement, ça pouvait renvoyer une mauvaise image aux gens. Ça pouvait leur faire gommer tes empêchements ou gommer tes nécessités, tu vois. Enfin, j'ai des problèmes concrets. Et il ne s'agit pas de préserver tes amis en les niant. Parce que quelque part, tu ne leur permets pas de te connaître totalement.
Oh, c'est génial. Non, mais c'est clair.
Et tu vois, le problème qu'on a dans l'image de l'homme handicapé, ça va être soit un espèce de pleurnichard, une flaque qui va pleurer et émouvoir dans les chaumières pour que les mamies donnent au téléthon.
Ok.
Ou alors tu vas avoir un athlète, tu vas avoir un surhomme qui va marcher sur les mains et traverser la France, tu vois. Mais t'as pas de mecs normaux. Et j'en parlais avec ma kiné ce matin qui s'occupe de petits gamins dans un centre qui sont en fauteuil et tout. Et puis elle me dit, tu sais, j'arrête pas de parler de toi. J'ai dit, bah, pourquoi tu parles de moi? Parce qu'elle me dit, ils ont pas d'exemple d'adultes. Ils ont que des exemples un peu, disons que c'est faussé, ça devient un peu des super-héros Marvel. Ouais. Dans les deux cas, ça devient des êtres extraordinaires. Et je pense que c'est important d'avoir une image, justement, d'un homme comme ça, qui mène sa vie comme il peut et qui est un mec normal, comme leurs parents, comme leurs amis, comme, c'est-à-dire banaliser les choses au lieu de les héroïser. Et c'est vachement important d'avoir une image qui soit plate, en fait, tu vois, qui soit blanche, et parce que ça évite les fantasmes, en fait. Mmh. Enfin, le progrès, ça serait de se dire, ouais, c'est un mec, quoi. Et je crois qu'on n'en est pas là. On en est vraiment à l'iconisation, presque. Et ce qui renvoie à l'image de l'handicapé, à l'image de l'homme, tu vois. Un homme, ça doit être fort, ça doit cacher ses émotions, ça doit compenser, tout le temps être à la hauteur. Ben non.
Ah ouais. En fait, tu sais, c'est là que je me dis, je suis un peu déçu de pas avoir amené une caméra pour te filmer. Tu vois. Non, mais parce que, tu vois, je me demande à quel point les gens avec le format audio, même si c'est génial ce que tu racontes, vont te voir. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un truc aussi.
Je vais avoir une sex tape.
On va parler de cul, t'inquiète.
Ouais, d'accord.
Le mec qui glisse le truc comme ça en passant.
Si tu veux mon 06.
Ça, je crois qu'on me l'a jamais fait non plus. Qui balance. Qui poste une petite annonce. Tu me disais tout à l'heure, justement, tiens, parlons des femmes. Mmh. Tu vois, tu me disais tout à l'heure que tu avais ta première relation sérieuse autour de 30 ans, c'est ça? Et que ouais. Ça t'a un peu mis face à, ok, maintenant il va être temps de regarder en face ma situation d'homme handicapé. Mmh. Comment ça s'est passé? Tu peux m'en dire plus?
Oui, je peux. Finalement, je me dis que c'est pas si différent d'un mec qui rencontre sa première nana sérieuse. Et il se dit, mon coco, va falloir être à la hauteur, quoi. Et là, on s'embrasse la première fois, c'est génial, on est dans un parc près d'un château, c'est superbe. Et moi, dans ma tête, je me dis, putain, mais comment je vais faire? Comment on va faire? À partir de là, c'était terrain incognita, je savais pas où je mettais les pieds, je savais pas. Je me dis, tout ce que je savais, c'est que je l'aimais, quoi. Et donc, elle me dit, non, mais on va pas se prendre la tête, il faut qu'on fasse ça d'une manière insouciante et tout. J'ai dit, putain, c'est vraiment gouré de mec. Donc, je me dis, ouais. Et puis, ben, moi, j'avais tellement des problèmes qui étaient pas réglés. Enfin, je vivais encore chez mes parents, j'avais 30 ans. Quand elle venait me voir, elle devait voir mes parents d'emblée. Enfin, elle avait du mérite, quoi. J'avais pas ce fauteuil-là, qui est un fauteuil électrique pratique qui va partout. Donc, c'était un fauteuil manuel. Il fallait qu'elle le plie, il fallait qu'elle le mette dans le coffre. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Je savais pas comment faire mes cours. Je savais pas comment faire je pouvais pas aider, quoi. Et on a partagé des moments extraordinaires, des moments de symbiose totale, des concerts, des films, des voyages, des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est la première fois que j'ai eu quelqu'un dans ma vie qui m'a fait voir le monde, moi, juste moi. J'avais pas mes parents, c'était juste elle et moi. Et qui m'a dit, en gros, si t'as envie de faire des choses, c'est possible. C'est possible sans aide, c'est possible sans... Si t'as envie de les faire, tu les fais. Donc elle avait une espèce d'insouciance comme ça, ou peut-être même d'inconscience, parce qu'elle n'avait pas toute la lourdeur de mes enjeux et de mes problèmes et tout. Et ça a été un rafraîchissement, mais incroyable. Mais moi, j'avais rien réglé. J'avais pas d'autonomie, j'avais pas d'appartement. C'était il y a une dizaine d'années maintenant, une petite dizaine d'années. Donc, et à partir de là, je me suis dit, Donc au bout d'un an, c'était trop dur parce qu'elle se chargeait de trop de choses. Et puis moi, j'arrivais pas à suivre. Et puis je me faisais mal pour essayer d'être à la hauteur et tout. Ça n'allait pas, quoi. Et donc après elle, on se quitte. Et je me dis, il faut vraiment que je règle tout ça. Et donc, la première femme que j'ai aimée, en tout cas, ça a été le début de ma vie. je suis né avec cette femme. Je suis né à l'âge d'homme, tu vois, au moment où tu te dis, cette fois, c'est mon histoire, c'est plus celle de mes parents, c'est plus celle de mes... Ce qui fait que ça induit un rapport au temps qui est un peu différent, parce que j'avais 35 ans, en gros. 30, 35 ans, je sais plus. Mais ce qui fait que j'ai vécu à 30, 35 ans ce que d'autres vivent à 20 ans. Et donc... Et ça crée un vrai décalage dans ta vie parce que t'as pas le même développement qu'un homme qui a vraiment 35 ans. Un homme qui a 35 ans, à la limite, il va commencer à avoir des enfants. Moi, j'en étais encore un moi-même. Donc, il fallait vraiment que je me mette en route, quoi. Et il a fallu l'amour de cette jeune femme et l'intervention de cette jeune femme pour que je me mette en route. Et pour que je me dise que, j'étais bien dans cette espèce d'enfance longue auprès de mes parents. Enfin, mes parents sont très présents. Je veux dire, ils viennent m'aider tous les jours pour des choses de l'appartement, pour m'habiller, pour tout ça, tu vois, pour des choses pratiques. Mais quand même, je vis dans mon appartement. Et donc, ça crée un rapport au monde qui n'est pas tout à fait le même. T'es plus sous tutelle, quoi. À partir du moment où t'as un appartement, t'es déjà un adulte. Et je trouve que le piège, ça aurait été de me dire... Bah ouais, mais avec mes parents, je suis tranquille, je m'occupe de rien. Et d'une certaine manière, t'es dans une semi-vie. Et être en fauteuil, souvent, c'est être dans une semi-vie. C'est être à la lisière de ce que tu pourrais faire, de ce à quoi tu pourrais prétendre. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que, aller complètement dans la vie, c'est te la prendre dans la gueule. Hein. Et donc tu te dis, mais comment on fait pour prendre un train? Comment on fait pour... Est-ce qu'il y a des chiottes accessibles au resto où on va? Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Mais les femmes parlent de charge mentale quand elles s'occupent de leur gosse et tout. Et moi, je parle de charge mentale quand je m'occupe de ces besoins-là. Tu ouais. vois, c'est vraiment...
Oui, ça fait partie de tes
lourd.
Besoins pratiques, quoi, ouais. au quotidien.
Et c'est tout le temps. C'est tout le temps. T'es obligé d'y penser tout le temps. Donc, mais... C'est ça, être un homme aussi. C'est pour ça que je te disais les épaules tout à l'heure et les responsabilités et tout ça. C'est regarder ces problèmes-là en face. Quand t'es enfant, il n'y a pas de problème. Mais comme quand t'es enfant, la grande différence entre l'enfance et l'âge adulte, c'est qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de deuil. Ou très peu, ou t'as vraiment pas de bol, quoi. Si tu connais la mort en bas âge, bon, c'est dommage, mais il y a une espèce de truc immuable aussi dans l'enfance qui disparaît complètement à l'âge adulte. À l'âge adulte, tu sais que tout finit. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre des amours et tu vas perdre des gens qui ont toujours été là. Que ce soit tes grands-parents ou... Donc ça induit un rapport au monde qui est beaucoup plus limité. Moi, c'est ce que je me suis dit il n'y a pas très longtemps, en fait. C'est que quand j'étais petit, pour moi, l'Antiquité, c'était il n'y a pas longtemps. Les Romains, c'était il n'y a pas longtemps. Et je pouvais autant me mettre à la place d'un légionnaire que de Baudelaire, quoi. C'était, le temps était à égalité tout le temps. Et là, quand tu touches les 40 ans, tu dis, ouais, putain, je suis à la moitié du chemin quand même. Et t'as un rapport au temps qui est beaucoup plus resserré, finalement, parce que tu te dis, dans 100 ans, qu'est-ce que sera le monde? J'en sais rien, je serai pas là. Et surtout quand t'as pas d'enfant, en plus, parce
j'allais
que
te le dire.
Les enfants, enfin, ça prolonge ça. Mmh. Ça prolonge ton laps de temps, en fait.
Disons que t'as tendance à te projeter pour eux de
oui.
façon.
Et en ce moment, ça n'a pas été évident de se projeter pour eux.
Surtout avec toutes les histoires de planètes qui sont en train de partir en couille,
ouais.
etc., etc. C'est un vrai truc.
Je crois que le vrai changement de l'époque, c'est un nouveau rapport au temps, en fait. C'est que le temps s'accélère et on s'attendait pas à ce qu'il s'accélère à ce point-là. Et je pense qu'on est tous un peu paumés avec nos codes d'avant, en fait. Tu t'aperçois que les couples explosent, tu t'aperçois que les familles explosent, tu t'aperçois que les hommes savent plus trop où ils en sont, les femmes savent plus trop où elles en sont. Et chacun essaie de retrouver une place, mais tu te dis, mais c'est les chaises musicales, quoi. On a tout changé, tu reconnais plus tout à fait le monde où t'es né, en fait. Mais d'une certaine manière, c'est pas plus mal parce qu'on est obligé de se convertir au présent. On se dit pas, dans 20 ans, on fera ça. Dans 20 ans, tu sais pas où tu seras, mon pote.
Ouais, c'est sûr.
Donc, c'est, voilà.
Très intéressant. Tu veux parler de sexe ?
On en est là.
Bah, on peut.
Vas-y, on lève ta chemise.
Ça aussi, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Que de première fois.
Ouais, beaucoup de premières fois. Non, bah, parler de sexe.
C'est toi qui as lancé le sujet tout à l'heure avec la sextape. De toute façon, j'allais te parler de sexe. Il y a toujours un moment où je parle de sexe avec mes invités.
Écoute, le sexe, pour moi, c'est un peu la même chose que ce qu'on disait sur, sur Stallone, Schwarzenegger et Rocky. Tu, ouais, vois, tu grandis en te disant qu'il y a une manière de bien le faire.
Ouais.
D'autant plus maintenant, quand t'es jeune, avec toutes les images porno que. Dont on est abreuvé de partout et tout ça.
Nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça, les enfants.
À notre époque, il fallait vraiment...
Fallait galérer un peu.
Fallait chercher les VHS cachés, fallait chercher les magazines un peu planqués aussi. Enfin, ouais, c'était compliqué.
Fallait avoir Canal+.
Fallait se démerder pour regarder le codage à travers la couverture.
Oh,
enfin,
là,
c'était...
C'est clair.
C'était compliqué. Donc, on était moins exposés à ça. Et moi, je me dis, mais le gamin de 15 ans qui arrive à maturité sexuelle maintenant, mais il doit être paralysé de trouille.
Bah, tu vois, je me dis ça. Et en même temps, il y a quand même Sex Education, tu vois, sur Netflix.
Oui.
Donc, tu as vraiment des modèles alternatifs qui existent aussi.
C'est vrai, mais qui regarde Sex Education ? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les mômes ?
Ah, je crois que les mômes le regardent énormément. Hein.
Ah bah, c'est ouais, bien.
Dans la classe de ma fille, là, tu vois, qui a 15-16 ans, ouais, ça a été vraiment un gros sujet.
Ça, c'est vraiment bien, ouais, parce que je trouve que, justement, on grandit avec des archétypes, on grandit avec des idées fausses, et on grandit surtout avec l'idée que le sexe est générique, comme le bonheur est générique. Et le sexe, il dépend de chacun. C'est à chacun de s'inventer un sexe et une activité sexuelle. Moi, pour dire les choses, j'ai pas le fonctionnement d'un homme normal. J'ai pas les facilités d'un homme normal. Mais quand tu as un handicap, tu sais que ça déplace les facultés plutôt que ça les supprime.
Ah, intéressant.
Donc tu vas être... plus sensible au toucher, plus sensible à la caresse, plus sensible au baiser. Et tu vas pas faire cette espèce de mécanique de pompe automatique qu'on voit partout. Et de piston, tu sais.
De piston.
C'est terrible, quoi. Parce que à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais ça doit faire mal, en fait. Et donc, je me dis, ben, mais longtemps, j'ai cru qu'il fallait faire ça, tu vois.
Oui, j'allais te dire, est-ce que t'as projeté des trucs aussi?
Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Parce que bah, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit dans les livres. On dit que faire l'amour, enfin, baiser, c'est le couronnement de l'amour. Pas forcément. Et ça peut être une connexion spirituelle. Tu peux avoir un orgasme avec quelqu'un que tu n'as jamais touché. Hein.
C'est
et dans une conversation, dans un regard, dans une énergie, quoi. Et je pense que le sexe est beaucoup plus métaphorique que nos sociétés matérialistes nous l'ont laissé croire.
T'as exploré un peu le tantra et tout, c'est ça que t'es en train de,
oui,
de dire?
Oui, un peu. Je suis un peu obligé, en fait, parce que bah, il faut trouver le plaisir où il est. Et moi, bah, autant j'ai un corps qui fonctionne normalement, mais pour le contrôler, c'est compliqué.
Okay.
Donc, il fallait que trouver un espace où je m'épanouisse. Et là, ça a pris du temps, quoi. Ça a pris... pour moi, c'était un exercice pour me réapproprier mon corps, pour vraiment retrouver les contours de mon corps et qu'est-ce que mon corps voulait, j'en savais rien.
T'as exploré ça à quel âge à peu près tu...
Bah, 30 ans, avec la première femme, quoi, okay. Tu vois. Et c'est.
Jusque-là, en fait.
Jusque-là, bah, c'était classique, tu vois. C'était des trucs d'ado, de masturbation et tout.
Okay.
Mais tu connais pas le corps de l'autre.
Oui.
Et je pense que...
Ceci dit, tu as quand même exploré ton corps.
Oui, oui, okay. Oui. Ben oui. J'ai cette chance-là d'avoir des sensations partout dans mon corps.
Okay.
Je ne suis pas paralysé. Je suis... Donc, mais après, je suis obligé d'aller voir ailleurs. Je suis obligé de sublimer un peu les choses et de les transformer un peu pour que ça soit du plaisir et pas un effort. Moi, c'est pour ça. Enfin, quand j'ai commencé ma vie sexuelle, ça a été beaucoup un effort. Pour être à la hauteur, justement.
Ah, oui.
Pour être à la hauteur de ce que ferait un homme normal.
Avec donc cette fille, c'est ça ?
Avec cette fille, oui. Et ça, au début...
Comment ça s'est passé entre vous ?
Comment ça s'est passé entre nous? Ben, je pense que c'était, c'est comme entre tout le monde, quoi. C'est d'un seul coup, on s'est vu et on s'est dit, c'était irrésistible.
Ok.
C'était, on savait qu'on irait là. Et je crois qu'il y a, une grande construction de l'esprit. C'est-à-dire, tu vois tous ces coachs en séduction qui te disent, il y a une technique pour faire craquer les filles et tout. Si t'as besoin de ça, t'es mal barré, quoi. Alors que tu rentres dans la pièce, tu la vois, tu sais que c'est elle. Et ça, il y a rien, quoi. Il y a quelqu'un, enfin, il y a quelqu'un qui prend toute la lumière, il y a quelqu'un qui prend toute ton attention, il y a quelqu'un. Et tu peux être intéressé par plein de filles. T'as plein de filles qui peuvent t'émoustiller, mais pour un moment. Et d'un seul coup, tu fais une fixation comme ça. Et tu dis, ouais, c'est là que ça arrive. Et t'as pas besoin de la phase de séduction, en fait. C'est là. Et c'est là, quand à la première seconde où elle te parle, c'est là. Donc après, bah, il suffit de suivre l'évolution des choses, quelle qu'elle soit. Mais je crois qu'il faut pas forcer les choses. Tu peux pas forcer les choses. Tu peux même pas forcer ça. Et ça fout une merde quand ça arrive, qui est incroyable.
Comment
quoi.
Ça
Bah parce que y a rien qui attend. Il y a rien qui est prêt à accueillir ça. Il y a rien qui. C'est un accident, l'amour. Et ça peut être assez destructeur d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui remet en cause tout ton quotidien, toute ta vie, tu dis, ah merde, j'avais pas prévu ça, quoi. Et donc pour moi, c'est avant tout une rencontre d'âme qui après va se traduire dans un corps. Mais l'expérience amoureuse pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que souvent on sait pas trop ce que c'est. Souvent, moi, je sais que j'ai essayé de mettre ça en mots, j'ai essayé d'envoyer des mots, j'ai essayé d'envoyer des lettres et tout. Puis tu t'aperçois que les mots, c'est un peu trop serré pour ça. Enfin, ça, ça dépasse complètement. Je trouve que c'est ce qui nous rapproche d'une forme de divin, en fait. Et il faut traduire ça dans le corps. Et quelque part, le sexe, c'est fait pour traduire ça dans un corps. Et c'est là qu'est le plaisir, en tout cas. Sinon, ça sera mécanique, mais ça sera comme un besoin biologique basique. Et je crois que le vrai plaisir, il n'est pas là. Il est vraiment dans la rencontre de quelqu'un où tu te dis, bah ouais, mais où t'étais, toi, depuis tout ce temps, quoi. Quelqu'un qui te complète et quelqu'un qui te comprend, même physiquement. C'est pas évident à trouver. Et quelque part, on est dans une société qui a marchandisé ça. C'est-à-dire que chacun va rencontrer ça au moins une fois, au moins même 10 fois, enfin, tu vois. Et ça me paraît absurde, quoi. Enfin, quand tu l'as rencontré déjà une fois ou deux, t'as déjà beaucoup de chance. Et je pense que le sexe tel qu'on le voit et tel qu'on le vit, même parfois, c'est quelque chose de très, j'allais dire dérisoire, mais en tout cas périssable, quoi. Ça dure pas longtemps. L'acte en lui-même,
oui,
je veux
bien
dire.
Sûr.
Mais après, l'effet de cette rencontre-là, l'effet de cette alchimie-là, tu t'en remets pas. Il peut te durer toute ta vie. Hein. Et ça, pour moi, c'est important de savoir que le sexe n'a pas qu'une seule dimension. C'est pas la taille qui compte. mais c'est quelque chose comme ça, tu vois. Je crois qu'on est... On est fait pour éprouver ce plaisir-là. On est fait pour se dire qu'on a quelque chose de spécial, qu'on a quelque chose d'un peu magique, en fait. Et je pense que moi, ce que je reproche beaucoup à la société du porno, mais pas seulement à la littérature aussi et au cinéma, c'est d'avoir transformé le sexe en espèce de truc un peu interchangeable. Avec des étapes obligées, avec c'est comme des ingrédients obligés et tout. Et tu te dis non, c'est beaucoup plus mystérieux que ça, beaucoup plus alchimique que ça. Enfin, mais ça, comment tu peux le savoir quand t'as 15 ans ?
Oui, et puis j'allais dire, il y a assez peu de, pour le coup, de rôle modèle, tu vois, et de paroles sur le sujet, quoi.
Non,
tu vois.
Non.
T'as raison.
Où tu te dis... Bah, ça,
encore une fois, Sex Education, tu vois, je trouve vraiment qu'ils arrivent à aborder tous ces sujets-là. Quoi.
Exactement. Et d'une manière super intelligente, quoi, parce que c'est vraiment... ça va aborder la transsexualité, ça va aborder même le handicap,
ouais.
Ça va aborder des tas de choses qu'on voyait jamais avant. mais je dis peut-être une connerie, mais c'est peut-être la première série qui soit aussi juste que ça pour moi.
Je crois pas que tu dises une connerie, non. C'est
parce que tu vois, autour du sexe, il y avait tellement. Enfin, tu te souviens des campagnes de sensibilisation quand on était môme, quoi.
Autour de du VIH et tout.
Autour du VIH, ouais. Même l'éducation sexuelle et tout, quand on faisait t'exercer sur un concombre. Enfin bon, ouais, c'est.
Ah ouais, j'ai même pas eu ça.
Tu mets une capote,
sur un concombre,
ouais, c'est ça. Et j'ai dit, putain, mais c'est... Ou une banane, enfin.
Une banane.
C'est... Tu vas automatiquement détourner le regard et en faire quelque chose d'un peu risible, d'un peu... Enfin, je me souviens, on était des ados, on était cons, et puis on rigolait tous comme des... Alors qu'il faudrait le faire comme quelque chose de très sérieux. Mmh. Comme on t'enseigne la philosophie, tu vois. C'est important de bien se comporter dans son désir. Sinon, il n'y aurait pas autant de viols, par exemple. Moi, j'ai été effaré au moment de Balance ton porc,
de MeToo,
de constater le nombre de mes amis qui avaient été agressés. Et pour moi, c'était l'exception. Mm. Et en tant qu'homme, de découvrir ça, en fait, de découvrir que c'était la règle, mais tu te dis, il y a un problème, justement, d'éducation sexuelle des hommes. Il y a un problème... Puisque le sexe de l'homme est vu comme une conquête, c'est vraiment vu comme un combat, quoi. Comme tout ce que font les hommes, d'ailleurs. Enfin, ta carrière, c'est un combat. Enfin, tout est métaphore guerrière. Mais le sexe devrait. Même le sport est une métaphore guerrière.
Bien sûr.
Et le sexe devrait pas en être une. Et l'homme, il va réfléchir comme il s'est toujours construit, c'est-à-dire comme dans l'adversité. Et quelque part, moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point le vocabulaire de la séduction est un vocabulaire de conquête. C'est vraiment, je vais t'annexer et je vais t'anéantir. tu vas m'aimer et tu vas n'aimer que moi, quoi. Enfin, c'est violent, quoi, quand on y pense. Enfin, les mots ont une importance, quoi. Et je pense, les hommes particulièrement, mais les femmes aussi, on est construit autour de ces archétypes-là. Et de ces archétypes, encore une fois, de force. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus déplacé dans le domaine sexuel que la force. Ça devrait être l'entente. Mmh. Ça devrait être écouter l'autre. Et en fait, tu t'aperçois que la plupart des gens, mais ils sont concentrés sur eux, sur leur plaisir, sur leur corps, et c'est tout. C'est-à-dire que ta planète s'arrête à l'autre, en fait, au lieu de l'englober. Et ça, c'est super intéressant de se dire que la plupart des gens, ils sont seuls au monde. Ils vivent seuls au monde avec ça.
Et toi, tu as la sensation que ce handicap, justement, t'a permis de pouvoir faire un pas de côté par rapport à ça, comme tu disais tout à l'heure que tu étais à côté, tu vois, des enfants,
oui.
Dans la cour de récré, etc.
Ah oui, je crois vraiment. Mais je crois que c'est vraiment la... C'est vraiment le cœur du handicap, c'est que c'est un pas de côté de tout. C'est que, quelque part, fatalement, que tu le veuilles ou non, ça fait de toi un observateur, beaucoup plus qu'un acteur. Puisque le monde est plus ou moins hostile, plus ou moins compliqué d'accès. Je veux dire, quand on parle de l'accessibilité des lieux, c'est quelque chose de très profond. Enfin, par définition, un lieu qui n'est pas accessible, c'est un lieu qui t'exclut. Donc tu vis l'exclusion en permanence, tu vis l'exclusion quand un ascenseur est en panne. Et ce qui fait que la posture que tu adoptes très tôt dans la vie, c'est de regarder, c'est d'écouter ce que les gens ressentent, c'est d'écouter ce qu'on dit, c'est de voir comment ils réagissent. Moi, très souvent, j'ai des amis qui me demandent ce que je pense de leur mec.
Ah oui, ok.
Et
pourquoi ?
Je leur dis pas souvent la vérité parce que elles savent que je sais évaluer les gens très vite.
Ok.
Et c'est pas souvent bien.
Tu veux dire que tu leur dis pas la vérité ?
Bah jamais. Enfin, c'est comme quelqu'un aussi ou alors des très proches. Tu dis reste pas avec lui, c'est un connard. Mais il faut vraiment bien les connaître quoi parce que c'est un peu comme dire à une mère que son enfant est un con.
Ça peut être parfois.
C'est compliqué. c'est compliqué parce que bah ils vont lui trouver toutes les excuses quoi. Et tu vois bien quand l'énergie est pourrie entre les deux, tu le vois tout de suite. Enfin moi je le vois tout de suite en tout cas parce que j'ai passé beaucoup de temps à subir la présence des autres. C'est-à-dire que t'es quelque part, t'es un peu en dehors. T'es un peu en dehors des cercles. T'es un peu en dehors des... Tu sais, bah, justement, les gens cool qu'on voit dans les lycées, dans Sex Education, quoi, qui sont bien intégrés, les cheerleaders, les champions de football et tout ça. Toi, t'es pas ça. Et donc, t'as le point de vue des geeks, en gros. C'est-à-dire, ils sont quelques-uns. Mais ils sont un peu en dehors de là où ça se passe. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est que plus tard, les geeks, ça devient Bill Gates et Steve Jobs, quoi. Donc, quelque part, on vit dans une époque aussi où il y a la revanche des geeks. Justement, on retrouve c'est la revanche de ceux qui avaient pas accès à la masculinité archétypale, quoi.
Ouais.
Et c'est assez intéressant de voir ça parce que finalement.
C'est un peu flippant d'ailleurs, non? C'est
bah
les
ouais.
geeks en vieillissant.
Bah c'est clair.
Ils veulent un peu dominer le monde, quoi.
Et puis, tu t'aperçois que, je sais pas, moi, Facebook, ça a été inventé par un sociopathe qui avait un rapport malade aux autres et il a imposé à l'univers entier son rapport malade aux autres. Enfin, ça dévie.
Oui, on oublie que Facebook est vraiment, à la base, c'est un système qu'il avait monté pour noter les meufs.
Pour noter les meufs.
À Harvard, hein.
ouais.
Pour les noter, leur donner des notes, quoi.
Et tu t'aperçois que finalement, bah, les réseaux sociaux, par exemple Twitter, c'est le réseau le plus toxique qui soit. C'est-à-dire les trucs qui vont être en trend, comme ils disent, c'est les trucs les plus toxiques, les plus négatifs, les plus méchants, les plus... Parce que ça fait réagir le plus, tu vois, ça parle au cerveau reptilien, quoi. Mmh. Et tu t'aperçois que ces gens-là ont encouragé tout ce qu'on a de bassesse, quoi. Et parce que Et finalement, ben, c'est presque leur vengeance. Hein. Tu vois bien les mecs qui faisaient tapisserie pendant les booms. Mmh. Tu les imagines bien dans le rôle, quoi.
Et toi, elle vient quand l'heure de ta revanche?
À moi, ma revanche, ça a été la littérature, ça a été d'écrire des livres.
Alors, allons-y.
Parce que
raconte-moi.
Le truc, c'est que j'ai toujours fait ça, en fait. Enfin, je crois que j'arrive à comprendre le monde uniquement en écrivant, uniquement à ranger ce qu'il y a dans ma tête. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose. Il y a que comme ça, même que je supporte le monde, tu vois, que je le trouve beau. C'est pour en faire quelque chose. Le monde devient ton matériau et d'un seul coup, bah, t'en fais un texte, quoi. Et tu mets tout ce que tu trouves beau dans un texte. Tu exclus justement tout ce que tu trouves dégueulasse. Tout ce que tu trouves toxique. Moi, j'ai voulu... Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Albatros, qui est paru il y a 3 ans maintenant. Et ça racontait les retrouvailles avec mon ex, la femme dont je te parlais tout à l'heure, oui. À un concert de Patti Smith. Et donc, on y allait tous les deux, on l'aimait tous les deux. Et donc, j'ai voulu raconter le cours de ce concert-là avec elle qui était dans la salle. On n'était pas ensemble, mais elle était là. Et donc je vis ce concert, il m'émerveille vraiment un truc chamanique, tu vois, un truc. À chaque chanson, tu sentais que tu quittais ton corps et que tu touchais la divinité parce qu'elle dégage un truc de prêtresse, tu vois, Patti Smith. Et donc le lendemain, on se parle au téléphone avec mon ex, et puis je suis là, je suis à fond sur le concert, enfin vraiment, et puis elle me dit... Nico, je crois que tu tiens un livre, là. Je crois qu'il faut que tu fasses quelque chose. Je crois qu'il y a un truc. Et je lui dis, oh putain. Et je lui raccroche au nez. Et je commence le livre que j'ai craché comme ça, tu vois. Mais parce que c'était vraiment dans le prolongement de cette émotion. Et quelque part, l'expérience vécue pendant ce concert m'a permis de vraiment raconter l'histoire d'amour qu'on a eue tous les deux. C'était lui rendre hommage et c'était rendre hommage au concert en même temps. Mais c'est en écrivant ce livre que tout s'est aligné, tu vois. Et que quelque part, j'ai pu dire au revoir à cet amour-là. J'ai pu avancer. Et en fait, je pense que les textes, enfin moi en tout cas, la manière dont je les vis, c'est que j'écris pas de manière scolaire. Je fais pas de plan. j'ai pas de calcul, en fait. Moi, j'écris pour voir où ça va me mener. Donc, pour voir ce que tu vas découvrir en toi. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est des images qui me manent depuis longtemps et tout. Et d'un seul coup, ça te mane tellement que ça devient un livre. Et j'écris par pulsion, en fait. Et c'est presque des pulsions de... C'est toujours des pulsions qui disent qui je suis, qui disent ce que je pense. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui m'efface beaucoup.
Tu parles bien, pourtant.
Ouais, mais je... Enfin,
tu gagnerais à parler plus, peut-être.
Il y a des gens qui sont plus brillants que moi dans les groupes, tu vois, qui vont prendre toute la place, qui vont être plus... Et...
Il y a encore ce truc d'observateur, donc.
Ouais, toujours le truc d'observateur. Donc, parce que, enfin, c'est même pas par nécessité, je crois que c'est par goût, en fait. Et donc, mais quand même, enfin, au bout d'un moment, il y a vraiment des sujets qui me restent. Et là, je me dis, non, mais il faut que j'écrive. Et l'écriture a été quelque chose d'inévitable à chaque fois. Comme un désir, justement, comme une pulsion et comme pour dire ce que je dis pas dans la vie. Enfin, là, on est dans une configuration, tous les deux, qui ressemble un peu à celle de l'écriture. C'est-à-dire, oui. c'est une écoute. Et je pense que tu te mets à l'écoute de ton âme quand t'écris, quoi. Et tu te dis, bon, on arrête les conneries, maintenant, qu'est-ce que t'as vraiment à dire? Et c'est une manière d'enlever son masque. Et quelque part, moi, pendant longtemps, j'ai dit, j'écrirai pas sur le handicap. Je suis pas ça, c'est pas mon sujet. Je parlais plein de choses, mais pas de ça.
Tu voulais pas t'identifier au handicap?
Non, non, non. Non, parce que, bah, quelque part, la littérature, c'était précisément ma cachette de ça. Et puis, il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 mois, j'écris un début, comme ça. Un mec qui rencontre une nana dans un café et il est en fauteuil. Et d'un seul coup, il y a une voix qui s'affirme, qui ressemble pas à ce que j'avais écrit avant. Et ça parle de handicap. Et ça parle de tous les problèmes que je rencontre tous les jours, de toutes mes frustrations et puis ma manière de tourner les choses en dérision. D'un seul coup, ça s'est imbriqué dans un texte. Et j'étais prêt. Et je crois qu'on est des cocottes minutes, en fait. Et avant l'heure, c'est pas l'heure. Et là, d'un seul coup, c'était l'heure. Et c'était mon éditrice qui était venue déjeuner une fois ici. Et on avait discuté pendant longtemps, pendant 2 heures. Et d'amour, de handicap, de tout ça, des sujets. Et puis, il s'est passé la même chose qu'avec mon ex quand elle m'a dit « Mais je crois que tu tiens un livre. » Et elle me regarde et puis elle me dit « Mais promets-moi que dès que je sors de ton salon, tu te mets à écrire. » Et je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit un premier jet qui me plaît. Qui lui plaît, c'est plus important. Et donc, on va travailler ça, tu vois, mais il a fallu 40 ans pour que ça arrive. Et 40 ans de fuite, quelque part, devant ce sujet-là, alors que, forcément, j'avais des choses à dire, c'est mon expérience du monde. Et je pense qu'être un homme, c'est assumer ça aussi, c'est assumer, assumer tes traumatismes, et assumer tes blessures, et assumer ta sensibilité, justement, assumer tes douleurs. Quand à partir du moment où t'es assez fort pour afficher tes faiblesses, c'est là que t'es un homme. C'est le contraire de ce qu'on a cru au départ. Et ça, c'est fort. Quand tu sens que ça te... Quand tu sens que t'es prêt, en fait. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, je peux pas faire ça. Justement, j'aurais pas les épaules pour faire ça. Je veux pas devenir un poster boy du handicap ou porteur d'une cause. Enfin, moi, la seule cause dont je peux parler, c'est la mienne. Mais je suis pas un exemplaire. Je parle pas au nom de tous les handicapés. C'est ça qui me faisait peur aussi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je m'en fous. Enfin, c'est mon expérience du monde, tu vois. Et quelque part, c'est ça, c'est... Tu vois tellement d'hommes, pour le coup, qui sont des grands gamins. et qui se débattent pour pas qu'on voit qu'ils ont peur, pour pas qu'on voit qu'ils sont faibles, pour pas qu'on voit qu'ils sont pas à la hauteur. Enfin, moi, je fuis devant les bagarres, par exemple. J'ai pas peur de le dire, ça me fait peur. Donc, j'aime pas les conflits, j'aime pas les bagarres, j'aime pas les manifs. Enfin, et je vais pas faire semblant d'avoir un courage qui est pas le mien. Moi, mon courage, c'est autre chose. Et c'est pour ça, enfin, c'est avoir le courage d'être autre chose, c'est peut-être ça être un homme, en fait. C'est pas être une étiquette, c'est presque ne pas en avoir, en fait. Presque t'en foutre. Mais je pense que, faut avoir un peu de bouteille pour s'en rendre compte, quoi. Quand t'es jeune, tu veux t'intégrer à tout, à n'importe quoi, à un groupe. Un parti politique, je ne sais quoi, mais une bannière. Tu te cherches un étendard. Et au bout d'un moment, tu te dis, les étendards, j'en ai rien à foutre. Et c'est là que tu peux commencer à te déployer un peu, quoi. Tu peux commencer à te lâcher la grappe, surtout. Enfin, la vie, c'est pas forcément un effort, c'est pas forcément une douleur, c'est pas... Voilà.
Je crois que ça fait un quart d'heure que je te laisse parler, mais je t'écoute, je bois tes paroles. Merci. Merci Nico, vraiment.
T'imagines si je m'étais préparé?
Non, justement, je crois que c'est d'autant mieux que tu sois pas préparé. T'as une parole guérisseuse, je crois.
Sérieux?
Vraiment. Je sais pas comment les mecs qui vont écouter ça vont réagir, tu vois, mais... C'est hyper fort, tout ce que tu viens de raconter. Tu t'en rends compte ou pas?
Oui, j'ai senti que j'étais parti loin un moment.
Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé causer?
Non, pas spécialement, je crois pas. J'ai suivi un flux comme ça.
Ouais.
Mais il n'y avait pas de thème, tu vois, parce que... Enfin,
s'il y avait un thème. Mais...
Oui, il y avait un thème. mais tu vois, le truc, c'est que, surtout en ce moment avec les élections et tout, tu vois qu'on est cerné de modèles virils, en fait. Ça, Zemmour, c'est évident. Enfin, mais tu vois, tout, même les femmes essaient d'être des hommes. C'est assez curieux, d'ailleurs, cette manière de dire je suis l'égal des hommes, je suis l'égal des hommes, d'avoir à le dire, quoi. Et d'avoir à se fondre dans ces représentations-là. Et tu te dis, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les idées. Le sujet, c'est pas de projeter cette image-là, en fait. Et c'est en regardant les meetings, les choses comme ça, les infos, et je me dis, mais on en est encore là. On en est encore à se débattre contre ces trucs qui sont archaïques. Et je trouve que la politique est malade de ce virilisme-là, tu vois, de cette image de côté je suis invulnérable, je suis infaillible, je me trompe jamais, je reconnais jamais mes torts, j'avance. Et tu te dis, mais je rêverais d'un monde où quelqu'un se lève et se dise, non, j'ai dit une connerie, je me suis trompé. Un homme politique, tu vois. T'imagines un homme politique qui te dit ça. Qui te dit, ce que je vous dis depuis 20 ans, c'est de la merde. Et je me suis gouré. Et tu vois des gens qui croient dur comme fer que leur image, c'est d'être droit dans leurs bottes. Enfin, c'est terrible d'être droit dans ses bottes. Je crois pas qu'il faille être droit dans ses bottes. Je crois qu'il faut changer. C'est ça, être vivant, en fait. Et ces gens sont morts et sont statiques et ils sont déjà statifiés, quoi. Et après, ils s'étonnent qu'on vote pas pour eux. C'est normal. Parce que c'est soit ils projettent un mensonge, soit ils projettent un entêtement. Et j'ai du mal avec tout ça, avec toute cette violence à laquelle on est confronté maintenant. En plus, maintenant, on est vraiment dans un temps où il faut choisir son camp, tu vois. Et t'as pas le droit, justement, d'être un peu sur le côté et un peu en dehors. T'as des tas de gens qui sont très en colère et très vindicatifs et très décidés et très... Et je pense que... Enfin, on dit que la société a pris conscience de beaucoup de choses avec... avec MeToo, avec les choses un peu woke et tout ça, je crois pas tant que ça. Je crois que dans les représentations, on est encore dans quelque chose d'extrêmement archaïque et d'extrêmement problématique, d'extrêmement viriliste, oui. Tu vois, c'est vraiment le truc de la... Enfin, ça me choque en ce moment. Ça me choque beaucoup parce que je m'y retrouve pas. Moi, j'aimerais bien de la nuance. J'aimerais bien de la richesse, j'aimerais bien du dialogue, j'aimerais bien du... Et tu t'aperçois qu'on n'a jamais eu autant de moyens de dialoguer. On n'a jamais eu autant de... même d'oreilles à toucher, tu vois.
Ouais.
Et il n'y a jamais eu moins de dialogue que maintenant. Et ça me fait peur parce que tu vas être un homme, tu vas être une femme, tu vas être un noir, tu vas être un arabe, tu vas être un blanc et tu n'auras le droit que parler que de ça. Et tu te dis, ben, c'est pas normal. C'est pas normal de pas pouvoir s'écouter à ce point-là. Et d'une certaine manière, c'est la mort de la pensée. Et j'aime assez justement ce format de podcast où t'as le temps de déployer une parole. Et je pense que ça, c'est peut-être le vrai grand progrès de notre époque, c'est ça. C'est que tu te poses et t'écoutes. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas posé pour écouter quelqu'un sans coupure pub, tu vois. Et c'est bien ça. Donc voilà, j'ai aimé l'exercice.
Merci Nico en tout cas.
Merci à toi.
Je mettrai les liens pour aller voir, pour commander ton livre.
Très bien. Très bien, achetez-le tous.
Voilà, faire un peu de pub.
Après ce que je viens de dire, c'est parfait.
Un grand merci à toi.
Ouais, merci.